Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière? Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout. Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore. Vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu? Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez? Alors ne manquez pas cet événement incontournable. La place salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo CLÉDUGÌTE24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets salon et les billets salon plus mastermind. Retrouvez toutes les infos sur www.rdvlocationsaisonnière.com. Au singulier tout attaché.com rdvlocationsaisonniere.com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité.
En fait, au lieu d'acheter un établissement et de devoir dire « Coucou, on existe, coucou, on est là, vous voyez qu'on existe », vous n'avez pas à faire ça parce que quelqu'un l'a déjà fait pour vous. Et ça, c'est sûr que c'est quand même un gros, gros atout.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Je suis Laura, toulousaine installée dans le Lot depuis 3 ans et propriétaire du gîte de groupe Le Moulin de Bernard. J'en avais marre de n'avoir personne avec qui parler de mes galères administratives, de passer des jours entiers à faire du ménage et ne croiser personne. Alors j'ai décidé d'aller à la rencontre d'autres professionnels comme moi. Équipée de mon micro et d'un casque sur la tête, j'enregistre les témoignages d'hôtes passionnés et passionnant. Mais ce n'est pas tout. Cette année encore, j'interviewe également des experts qui partagent sans limite leurs connaissances et conseils avec vous. Et parce que jamais 203, cette année ce sont 3 épisodes par mois, avec la découverte d'une marque, d'un prestataire ou d'une initiative. Qui sait, ce sera peut-être votre prochain partenaire. Comme toujours, vous retrouvez les coordonnées de mes invités dans les notes de l'épisode. Enfin, j'ai énormément de plaisir à lire tous vos super messages et avis que vous me laissez sur Apple Podcasts ou sur Instagram. Alors merci à vous de faire grandir le podcast et surtout, n'arrêtez pas! Vous me demandez souvent où je puise toute mon énergie et je dois vous avouer mon secret. C'est tout simplement vous, vos retours, vos partages et votre soutien. Allez, place à l'épisode du jour. Bonjour Laurie.
Bonjour Laura, merci pour ton invitation.
Merci à toi, merci d'avoir répondu présente. J'ai fait appel à toi parce que j'ai interviewé il y a plusieurs semaines Cathy pour Camélias Liorette et je trouvais hyper intéressant de le fait que elle ce soit une reprise et on en parle peu finalement. Et donc j'avais envie d'aborder à nouveau ce sujet puisqu'on l'a déjà fait dans l'épisode J-12 du calendrier de l'Avent du 13 décembre, comment gérer son marketing lors d'une reprise d'un hébergement. Là, je voulais qu'on oriente un petit peu plus sur les avantages, les inconvénients et les conseils qu'on pouvait donner à ceux qui s'orientent ou qui sont sur le point de faire l'acquisition d'un bien qui est déjà en activité. Mais avant toute chose, pour ceux qui n'auraient pas encore fait ta connaissance, mais je suis sûre qu'il n'y en a pas, on ne sait jamais. Est-ce que tu veux bien te présenter à nouveau, s'il te plaît?
Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, ma spécialité, c'est l'accompagnement marketing des professionnels du tourisme et plus particulièrement des hébergements. Donc tout simplement, j'accompagne des hébergements soit qui ouvrent et qui ont besoin de créer une stratégie marketing, ou alors des hébergements qui sont déjà lancés, qui sont déjà ouverts depuis plusieurs années et qui ont besoin de rebooster leur stratégie, leur commercialisation, leur chiffre d'affaires. Donc voilà comment j'interviens au quotidien dans mon métier.
Parfait, et quel a été ton parcours?
Alors moi, à l'origine, j'ai fait des études de marketing du tourisme pour travailler en agence de voyage, hein, à la base assez classique. Et en fait, je suis partie en Chine pendant ces études, j'ai ouvert un blog, et là ça a été le coup de foudre parce qu'il fallait bien le faire connaître ce blog. Donc là, tous mes cours marketing ont pris sens, j'ai trouvé ça génial. Et en fait, finalement, après mes études, j'ai rejoint des agences marketing touristiques et je suis restée là-dedans. C'est un peu Obélix qui est tombé dedans, quoi.
Et aujourd'hui, tu proposes donc des services, tu t'es mis à ton compte. Quelles sont les offres que tu proposes ?
Je propose principalement deux types d'accompagnement. Donc, soit un accompagnement vraiment création de stratégie marketing. Vous débutez, vous ne connaissez pas du tout le marketing et vous avez vraiment envie de partir sur des bases solides pour démarrer votre établissement. Donc là, on va travailler l'identité, les canaux qu'il faut sélectionner pour communiquer, comment communiquer dessus, comment diffuser votre stratégie. Et pour ceux qui sont déjà lancés, on part sur les problématiques que vous avez précisément. Ça peut être mon site internet ne fonctionne pas, on ne comprend pas bien mon identité, j'ai un problème de chiffre d'affaires, j'arrive pas à voir comment aller plus loin. On prend la problématique et concrètement, on travaille dessus et on la résout.
Parfait, c'est très clair. Donc aujourd'hui, comme je disais un peu plus tôt, l'idée c'était de détailler un petit peu les avantages et les inconvénients que nous avons perçus à travers ton expertise et à travers mon expérience sur le fait de reprendre un gîte ou une maison d'hôte déjà en activité et de ne pas se tourner vers de la création. Est-ce qu'on commence d'abord par les avantages ou les inconvénients ? Qu'est-ce qui est plus positif ?
Je pense que les avantages et les inconvénients se croisent, donc peut-être par les avantages.
Allez, on commence par les avantages.
Du coup, si on doit parler des avantages, parce que quand même, il y a beaucoup d'avantages, hein, soyons honnêtes. Pour moi, l'avantage principal, qui est un avantage à la fois, je dirais, commercial et marketing, c'est qu'effectivement, vous récupérez une clientèle existante, et même parfois, un carnet de réservation hyper complet, ça peut très bien être une saison suivante qui est quasi complète, avec des clients fidèles, etc., etc. Donc c'est vrai que quand on démarre, ça peut être hyper rassurant, et même d'un point de vue de la banque, d'un point de vue financier, de voir qu'on a des résas sur un an, ou au moins sur 6 mois qui sont là, qui existent et qu'on n'a qu'à reprendre, c'est quand même quelque chose qui a un avantage, et qui peut permettre aussi de se baser dessus en termes financiers, en termes de stratégie. Donc ça c'est sûr que c'est pour moi un des plus gros avantages qu'on peut avoir, même si après on en parlera, tout dépend de ce que vous voulez faire derrière, parce que les clients qui étaient les clients des anciens propriétaires, c'est pas forcément ce que vous voulez.
Tout à fait.
Je sais pas ce que t'en penses, Laura, mais je crois que t'as eu le cas, toi. Hein.
Bah, c'est tout à fait ça, en fait. Effectivement, il y a un côté très rassurant parce que tu reprends quelque chose qui fonctionne déjà. Et donc, tu as des réservations qui sont déjà faites pour ta première année d'activité. Et l'avantage, effectivement, c'est que tu peux avoir une petite trésorerie. Nous, il y avait des réservations donc, pour l'année à venir. Et je crois qu'on avait à peu près 9000 euros d'acompte sur des réservations donc à venir et ça c'était plutôt agréable parce que bon, l'investissement est lourd mais il y a déjà un petit fond de roulement on va dire, un petit peu de trésorerie grâce aux acomptes qui ont déjà été perçus pour les réservations à venir.
Tout à fait et du coup je pense que ça enchaîne avec un deuxième point qui est complètement relié à ça, c'est que quand vous reprenez un hébergement existant, a priori, vous arrivez dans un écosystème déjà mis en place par les anciens propriétaires. Par écosystème, j'entends qu'a priori, il y a un site. Sur le site, vous pouvez prendre des réservations, il y a un moteur de réservation. Des fois, ça va jusqu'à des outils plus complexes comme des channel managers. Il y a potentiellement des pages sur les réseaux sociaux. Ça peut être des fiches dans des annuaires, etc., etc. Donc là, encore une fois, ça peut être vachement de temps gagné. Et quand on parle de réservation, par exemple, potentiellement l'ancien propriétaire vous donne le mot de passe, vous reprenez les comptes et en fait vous n'avez rien à créer, vous n'avez pas à tout recommencer de zéro, à comprendre comment ça marche, vous pouvez tout simplement récupérer les contrats et les comptes, ce qui peut être aussi un gros avantage, notamment si vous démarrez dans le secteur, parce que souvent quand on démarre dans le secteur de l'hébergement et qu'on ne le connaissait pas avant, il y a quand même un gros palier de connaissances. Là j'ai peut-être cité des outils qui ne vous parlent pas d'ailleurs, quand je parle de channel manager qui sert à distribuer sur différents canaux votre hébergement, donc par exemple, et sur Booking, et sur Airbnb, etc., et avoir des disponibilités en temps réel partout. Par exemple, ça, c'est un outil, quand on vient pas de l'hébergement, on connaît pas forcément, et de savoir que tout existe, que tout est là, qu'il n'y a que reprendre les comptes ou les contrats, c'est quand même, encore une fois, quelque chose d'assez rassurant, et qui peut grandement vous faciliter la vie par rapport à faut refaire toutes les démos, etc., etc. Là, vous pouvez partir sur des choses qui sont préexistantes, et ça, c'est quand même pratique.
Cathy nous citait le fait que les prix étaient déjà établis. Alors effectivement, on peut prévoir de les revoir, mais on peut aussi se dire, je me laisse une année un peu tampon, une année dans laquelle je vais pouvoir observer. Je ne change rien, je ne mets pas en place une nouvelle grille tarifaire ou de nouvelles prestations, mais ça permet de faire une petite analyse, de voir ce qu'on a envie de garder et de voir ce qu'on veut modifier. Je trouve que c'est aussi très confortable de se laisser du temps pour faire soi-même le constat de ce qui est à garder ou de ce qui est à enlever.
Ouais, tout à fait, c'est sûr que si vous achetez un bien et que vous partez de zéro, il n'y a pas de choix, il faut forcément créer. C'est sûr que quand on rachète, on a cette possibilité de se laisser ce tampon. Et parfois, on sous-estime en fait le nombre de choses qu'il faut créer. Ça paraît un peu bête, mais rien que pour faire une carte de visite, il faut avoir une couleur. Donc, il faut déterminer une charte graphique ou tout du moins un coloris que vous allez utiliser un peu partout pour être identifiable. Là, on rentre dans des considérations de graphisme. Mais rien que ça, c'est pas facile de choisir cette couleur ou ces couleurs qui vont avec le logo, etc. Si vous dites, tiens, je vais me laisser du temps, vous pouvez repartir de l'ancien logo, des anciennes couleurs, des anciennes cartes de visite. Vous pouvez même récupérer le numéro de téléphone, il n'y a même pas de nouvelles lignes. Et vous laissez du temps et vous voyez après ce que vous faites si vous voulez amener autre chose. Donc c'est vrai que ça peut être, quand on arrive et qu'on a déjà tout à penser, tout à démarrer, ça peut aussi être quelque chose d'assez apaisant, de se dire, je laisse passer la première saison, je prends les résakias, je continue un peu comme c'était, et une fois que j'ai l'expérience, je fais les investissements avec l'expérience. Ce qui aussi peut être quand même assez intéressant, surtout si on ne connaît pas très bien le secteur.
Tout à fait, ça me fait penser à un sujet qui était sur le forum où la personne nous demandait s'il y avait un peu un rétro-planning établi sur l'ouverture. Et en fait, malheureusement, on peut donner les grandes lignes et les gros points sur lesquels il faut être préparé et les étapes, mais il n'y a pas un document type ni un ordre chronologique type. Et surtout, on fait le constat que tout est à faire en même temps. Malheureusement, on ne peut pas annoncer une date d'ouverture sans être prêt avec son site internet, sans avoir mis les annonces sur les sites de réservation. Mais pour ça, faut déjà avoir fait quelques photos. Il faut avoir peut-être pas une charte graphique définitive, mais une identité visuelle déjà un petit peu affirmée. Il faut pour cela avoir déjà pensé au nom. Et en même temps, il faut peut-être faire des travaux, parce que faire des aménagements. Donc, tout est un petit peu, malheureusement, cumulé. Alors que là, avec une reprise, on peut aussi accepter de ne pas tout modifier d'un coup, même si des fois, ça peut démanger. Moi, la première, il y a des choses que j'aurais voulu modifier directement, mais le budget ne me le permettait pas et l'ouverture prochaine ne me le permettait pas non plus. Et finalement, je suis très reconnaissante de ça, d'avoir eu le luxe d'avoir un peu de temps pour ne pas me précipiter sur des choses que j'aurais fait un petit peu sans réflexion au départ. Voilà.
Ouais, c'est sûr que je pense que c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément, parce que souvent, quand on achète quelque chose, on a déjà tellement... Il y a déjà tellement de paperasse, de complications. Si c'est une zone classée, je pense à tous ceux qui achètent dans des zones historiques, il y a encore plus de paperasse. Il y a tout ce qui relève de l'achat, de la banque, des assurances, etc. C'est déjà tellement stressant que du coup... moi, je sais que les propriétaires souvent me disent « Non, mais on est trop tôt, on est trop en avance. » Et en fait, ils se rendent pas compte que vraiment, le temps passe extrêmement vite.
Et qu'après, on est en place,
Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a trop... Il y a le moment où on a l'impression d'être trop tôt, et après, en fait, on est déjà en retard, parce que souvent... Alors, faut voir quand est-ce que vous achetez, mais très souvent, la saison arrive très vite. Et en fait, les premiers clients arrivent très vite. Et faut quand même se rendre compte que... faut avoir une stratégie de... Comme tu dis, à quel prix on va se commercialiser, qui on veut attirer, est-ce qu'on attire des familles, est-ce qu'on attire des couples, qu'est-ce qu'on va proposer comme service, etc., etc. Mais une fois qu'on a fait ça, faut ensuite tout mettre en place d'un point de vue factuel. Il faut créer son site internet, il faut avoir... Ça peut être des brochures parce qu'on a besoin de parler de tel ou tel service... faire des cartes de visite, mettre en place ses fournisseurs, il y a plein de choses à penser. Et c'est vrai que si vous rachetez très proche de votre saison, parce que très souvent quand même ça fonctionne beaucoup par saison, dans la plupart des régions, mettons que vous rachetez dans un endroit où la saison elle est de, avril à novembre, il y a quand même, à moins d'acheter vraiment dans le bon créneau, a priori vous allez acheter et pas longtemps après, Il faudra déjà commencer voilà, et être dans le bain, etc. Et effectivement, c'est pas évident, je pense, sur une année une, de faire déjà toutes les démarches indispensables, assurance, électricité, internet, enfin toutes les choses qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix. Et en plus, il faudrait prendre le recul stratégique de se dire il faut faire tel ou tel choix, tel ou tel investissement, réfléchir en stratégie. En vrai, ça fait vraiment beaucoup. Et là, je pense qu'effectivement, ceux qui reprennent et qui se donnent une première saison pour prendre du recul, là, c'est vraiment un atout parce que du coup, au lieu de dépenser un peu à l'aveugle, de démarrer, de se dire mince, on est à côté, on redépense. Et ça arrive très souvent, les gens qui ont fait un site, qui ont payé 3 000, des fois 4 000 euros parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix de prestataire, mais parce qu'ils l'ont fait dans le jus, parce qu'il fallait vraiment lancer quelque chose, et qui en fait à la fin de la saison se retrouvent avec un truc qui ne marche pas, il faut le refaire. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on voit très souvent, et que vous, si vous rachetez un établissement, potentiellement vous pouvez passer à côté parce qu'il y a potentiellement déjà un site, et vous pouvez vous dire bah voilà, je me laisse le temps, je pars sur ce qui existe, et le jour où j'investis, bah, c'est fait en connaissance de cause.
Tout à fait. Ça peut ne pas vous convenir et vous pouvez identifier de suite que ça ne vous convient pas. Mais encore une fois, faites preuve de patience et vous saurez d'autant mieux ce que vous voulez pour la suite. Donc ce sera encore plus... pour le coup, il n'y aura pas de faux pas. J'aimerais qu'on aille à l'avantage suivant parce que ça découle vraiment de ce que tu disais. Il y a les outils effectivement qui sont déjà mis en place, mais il y a aussi la notoriété qui est déjà existante. Comme on dit, on va peut-être récupérer ne serait-ce que des réservations, ça ce serait déjà super, mais on peut avoir, on peut récupérer la notoriété, qu'elle soit locale, qu'elle soit auprès d'abonnés sur un compte Instagram, ou qu'elle soit sur la presse, par exemple, je reviens encore à Cathy de Camélias Luré, mais effectivement, elle bénéficiait de toute la visibilité qu'avaient construit les précédents propriétaires, et ça, c'est vraiment pas négligeable. On peut déjà avoir, avant même d'être les nouveaux propriétaires, des articles, des références sur des magazines ou dans d'autres sites. Il y a peut-être des influenceurs qui sont venus. Et donc, vous pouvez bénéficier d'une visibilité qui est exceptionnelle avant même d'avoir commencé.
Non, ça, c'est vraiment vrai parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de concurrence sur la question de la notoriété. Et encore une fois, quand on démarre, c'est pas toujours évident d'avoir anticipé tout ce qu'il faut pour bien se faire connaître. Je pense que si ici vous avez un compte Instagram que vous venez de démarrer, quand on est au début avec ses 10, 15, 20 abonnés, on se dit mais ça va jamais démarrer quoi. Il y a vraiment un moment c'est un peu long. Et c'est vrai que dans ces moments-là, alors après, on parlera dans les inconvénients, tout dépend de comment vous reprenez, est-ce que vous gardez l'identité, etc. etc. Mais si vous avez la possibilité de repartir sur des bases existantes, vous faites un bond en avant, mais des fois vous gagnez 3-4 ans en termes de notoriété, tout simplement parce que, même si vous gardez pas le compte d'ailleurs, vous pouvez très bien dire « je vais changer, franchement mon style est trop différent, je ne veux pas forcément garder les abonnés parce que je veux pas les induire en erreur », mais vous allez pouvoir utiliser l'ancien compte pour présenter le nouveau, donc vous allez pouvoir facilement faire migrer une partie des abonnés. Si l'ancien compte avait, je sais pas, moi, 500, 900 abonnés, si vous n'avez rien que 300, 400 qui partent chez vous tout de suite, c'est déjà plus confortable que commencer à zéro. Donc dans tous les cas, quel que soit le choix que vous faites, que vous mettiez en place, que ce soit de repartir, de reprendre les comptes ou de recréer, c'est hyper intéressant. Et je pense, comme tu le faisais remarquer, on sous-estime quand même souvent. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réseaux sociaux, c'est une thématique qui évidemment est super importante et c'est hyper intéressant, mais il faut quand même pas oublier que la notoriété et les stratégies pour se faire connaître, ça va bien au-delà des réseaux sociaux, et souvent, quand on reprend un établissement qui est déjà implanté, effectivement, bah, il est connu par des journalistes, mais ça peut être aussi par des guides qui passent là de temps en temps et qui sont déjà venus, ça peut être par des sociétés qui savent que c'est une bonne opportunité quand ils font... une réunion ou quand ils font venir des employés d'un peu loin, ils savent que c'est une bonne opportunité pour faire dormir des employés. Ça peut être tout simplement par le tissu local, les gens du coin qui savent que quand leur famille vient à Noël, elle peut dormir ici. Enfin, toute cette notoriété-là, la presse aussi, effectivement, locale, qui vient très facilement. Enfin, je ne sais pas si c'est le cas à Laura, mais moi je sais que souvent... quand c'est une reprise, ils se déplacent très, très facilement pour faire un petit article. Dès qu'il se passe quelque chose, ils y reviennent assez généreusement. C'est beaucoup plus facile quand ils ont déjà la connaissance. En fait, toutes ces choses-là, au lieu d'être, en fait, au lieu d'acheter un établissement et de devoir dire coucou, on existe, coucou, on est là, vous voyez qu'on existe, vous n'avez pas à faire ça parce que quelqu'un l'a déjà fait pour vous. Et ça, c'est sûr que c'est quand même un gros, gros atout. Même si vous changez complètement l'identité, vous pouvez quand même repartir de ça. Et là, il y a un truc que toi, tu disais, Laura, tout à l'heure, qui, je pense, est très important. C'est que c'est encore plus vrai quand il y a une super passation avec les anciens propriétaires. Parce que du coup, ils peuvent vous présenter. Ça peut être vous présenter aux journalistes, vous présenter au gars du petit futé qui vient de temps en temps, qui avait fait un article sur eux. Ça va être vous présenter à tous leurs contacts, au tissu économique local, au maire, au sénateur du coin, enfin voilà, vraiment à tous les gens qui peuvent participer à votre notoriété, au lieu de vous devoir aller vous présenter à la mairie, qu'on vous y emmène et qu'on vous dise « voilà, monsieur le maire, c'est les nouveaux », ça, tout de suite, c'est quand même beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile à faire comme ça.
Complètement, et au-delà même de la notoriété, c'est aussi pour les partenariats. Ils peuvent aussi vous dire, moi je faisais mon linge avec telle institution, donc tu peux reprendre. Là, c'est juste royal de ne pas avoir à se creuser la tête sur comment on va faire la gestion du linge, est-ce que j'achète du stock, nanani, nanana. On le sait, le linge, c'est un gros sujet aussi. Donc voilà, ça peut être plein d'atouts aussi par rapport à leur partenariat, au-delà du maire et de la notoriété globale. Ça peut être aussi auprès des influenceurs, s'ils ont déjà fait des partenariats auprès d'influenceurs ou, comme tu dis, de représentants de guides et autres, c'est parfait. Ils peuvent très bien soit tout simplement vous transmettre leurs contacts, soit les recontacter directement en leur disant « voilà, je vous annonce qu'on vient de vendre, voici les coordonnées des nouveaux propriétaires ». Si vous avez envie d'en savoir un peu plus, voilà, des choses comme ça. Ça peut être même les artisans. Eux, ils ont peut-être fait des travaux pendant les années où ils exploitaient. Donc, ils ont peut-être un carnet d'adresses hyper chouette où vous pouvez aller rappeler le plombier qui vous expliquera exactement comment est fait tout le circuit. Le maçon qui a bâti la grange qui est maintenant aménagée en deux chambres d'hôtes et qui peut effectivement... organiser avec vous soit une rénovation d'une troisième dépendance. Voilà, c'est surtout si vous n'êtes pas issu de ce territoire-là, parce que c'est vrai, on ne l'a même pas dit, mais vous pouvez être aussi complètement nouveau selon la zone géographique. Et on le sait, et je pense que je l'ai déjà abordé plusieurs fois dans d'autres épisodes, c'est hyper dur de s'implanter et de se faire un réseau. Donc là, c'est tout bénef. Alors, il y a peut-être certains contacts à jeter, on va dire. Il n'y a peut-être pas tout à prendre parce que chacun a ses critères. Mais ça facilite beaucoup, beaucoup l'installation, je pense.
Ouais, c'est vrai que c'est une bonne remarque. D'autant que si on n'est pas du coin...
Voilà, on part de zéro.
D'être introduit, c'est ça. C'est quand même... Enfin, moi, je vois la différence sur mes clients qui arrivent et qui n'ont pas de réseau, où effectivement il faut tout créer de zéro, et ceux qui arrivent, qui n'ont pas forcément de réseau, mais qui rachètent un endroit où les anciens propriétaires vont les présenter. J'ai vu comme ça des hébergements qui d'un coup, tout le monde parlait d'eux, il y avait des repartages partout, alors qu'ils étaient vraiment nouveaux, ils n'étaient pas du coin, mais on les avait présentés comme le couple de jeunes qui va faire revivre... finalement un endroit local qui va faire qu'il y a des clients qui continuent de venir. Et le fait d'avoir été présenté comme ça et pas comme les petits nouveaux, ça avait tout changé, quoi.
Complètement. Un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'historique financier des anciens propriétaires. Effectivement, s'ils sont sérieux et qu'ils font les choses en règle, vous pourrez bénéficier de leur bilan comptable, de leurs factures pour pouvoir peut-être avoir encore des garanties sur certains équipements ou en tout cas pour pouvoir évaluer vos charges fixes, connaître la taxe foncière, connaître les dépenses d'électricité et pouvoir évaluer quelles seront vous-même vos dépenses et quels seront les revenus que vous pouvez espérer. Si vous avez besoin de faire un emprunt pour faire l'acquisition de ce nouveau bien, c'est vraiment du pain béni pour aller voir la banque. Parce que vous pouvez annoncer des chiffres très... quel est le bon terme ?
Réalistes.
Voilà. Des chiffres très réalistes et très tangibles.
Ouais, non, c'est sûr. Et même, tu vois, je pense que souvent le marketing, il est inclus dans le business plan. C'est quand même vachement plus facile à faire quand on se base sur des choses existantes que quand on doit faire une étude de marché à partir d'autres gîtes, du coin ou etc. Là, c'est sûr que ça facilite quand même bien les démarches.
Tout à fait. Il y avait un autre point que j'avais marqué, c'était que ça impliquait de se jeter à l'eau beaucoup plus rapidement. Et on l'a déjà abordé, en fait, effectivement. Si vous avez convenu avec les anciens propriétaires qui continuent à prendre des réservations, parce que ça peut être négocié aussi. Hein. À partir du moment où vous avez fait une signature d'un compromis, vous pouvez leur dire, bah, nous, on souhaite que vous arrêtiez la prise de réservation parce qu'on veut se laisser X mois pour faire des travaux et des choses comme ça. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Mais imaginons que vous avez convenu qu'ils continuent à remplir le planning, etc. Ben, y a bien un moment où il y a une date à laquelle il faut ouvrir. Et je trouve que c'est quand même intéressant aussi, parce que ça vous met le pied à l'étrier. Sinon, on peut avoir tendance à vouloir repousser et se dire, bah, attends, c'est pas encore parfait. On décale la date d'ouverture encore un mois, encore un mois, encore un mois. Bon. Mieux vaut fait que parfait, et de toute façon, rien ne sera jamais parfait. Là, ça vous donne une deadline qui n'est pas de votre décision, hein, elle vous est clairement imposée, et je trouve que c'est très chouette, parce que finalement, même si ça peut sembler un peu inconfortable, vous verrez qu'une fois que vous êtes lancé, c'est vraiment là qu'on apprend son métier, voilà.
Ouais, je pense que c'est un bon moyen de voir les choses, parce qu'effectivement, des fois, on voit des gens, enfin moi en tout cas, ça m'arrive de voir des gens qui se sont payés mais 10-15 formations diverses et variées pour se préparer. Et souvent, quand je les vois passer, j'ai envie de leur dire, mais il y a un moment où je pense que la théorie ne suffit pas.
Il faut l'avoir vécu. Il faut se confronter à la clientèle. Ouais.
Ouais, faut vraiment avoir vécu les choses. Par exemple, c'est un exemple tout simple, mais on vous dit souvent, si vous avez suivi un peu des comptes ou des formations, des accompagnements, ciblez vos clients, choisissez votre client idéal, choisissez une cible, vous avez peut-être entendu ce genre de choses. Bah, si vous n'avez jamais travaillé dans le métier, que vous n'êtes pas du milieu, que vous n'avez jamais eu d'hébergement et que vous n'êtes pas de la région, c'est quand même hyper abstrait comme concept. C'est très difficile à faire. Alors que je vous assure que si vous faites une saison, vous accueillez plein de clients variés, à la fin, vous avez quand même une idée assez précise de ce que vous voulez, de ce que vous voulez pas, de ce qui est adapté pour vous et l'établissement que vous voulez avoir. Tout ça devient extrêmement concret et je pense que c'est là qu'on peut prendre vraiment les bonnes décisions. En tout cas, qu'on peut aller plus loin qu'avant où bah forcément on est limité dans sa compréhension, quoi.
Complètement d'accord, effectivement. Vous pouvez vous dire, voilà, sur l'été, j'ai apprécié tel type de clientèle. J'ai un peu moins apprécié celle-ci qui venait de tel site de réservation. Bah peut-être que c'est un site avec lequel vous ne souhaiterez pas continuer à travailler puisque ça ne répond pas complètement à vos attentes. Ça va vraiment vous permettre d'avoir bah vraiment une vue concrète et réelle de l'avenir, de ce qu'il y a déjà en place et de ce que vous pourrez modifier ou pas. Et par rapport au fait qu'il ne faut pas attendre que ce soit parfait, c'est aussi que c'est les retours de vos clients qui vont vraiment être significatifs. C'est pas ce que vous pensez, puisqu'on n'a pas un regard objectif, c'est naturel. Donc il faut se confronter à ce que pensent les locataires. On peut aller au point suivant, parce que je pense que ça découle sur ça. Je te laisse la parole, Laurie.
Je ne sais pas quel est le point suivant, mais si tu veux
C'est la frise. Elle est perdue. Facilité à définir une stratégie marketing.
Oui, effectivement. c'est un peu mon sujet quand même. oui, bah finalement, ça découle un peu de ce qu'on s'est dit, je pense, parce que en fait, tout ce qu'on vous dit, marketing, c'est un peu un gros mot. Les gens se disent, oh là là, ça fait penser à Coca-Cola, Airbnb, Booking. Mais finalement, en fait, le marketing, c'est tout simplement le fait d'être très cohérent dans ce que vous allez proposer, donc c'est-à-dire d'avoir un message qui est cohérent, des prix qui sont cohérents, une cible qui est cohérente, de mettre tout ça aux bons endroits pour communiquer, de vous commercialiser aux endroits qui sont cohérents avec tout ça aussi, au prix, cible, etc. Vous voyez, c'est finalement beaucoup de questions de cohérence. Et finalement, quand vous arrivez avec de l'existant, vous allez pouvoir analyser en fait ce qui existe déjà. Et regardez comment ça marche, regardez ce que vous pouvez garder de bien ou ce que vous pouvez enlever Et finalement, c'est plus du réajustement que du départ à zéro. Et c'est beaucoup plus simple de réajuster Exactement. Que de tout créer, parce que quand vous créez, vous ne pouvez jamais savoir si ça va marcher ou pas. Ça, c'est vraiment une règle marketing de base. On peut avoir les meilleures intentions du monde, avoir toutes les études en poche, avoir tout le monde qui vous dit que ça va marcher. Par exemple, tout le monde vous dit Instagram est indispensable, vous ouvrez un compte, vous avez tout pour que ça marche, et pour X raisons, chez vous, moyen. Parce que bah, peut-être que la cible elle n'est pas là, peut-être que. Enfin, il y a plein de raisons, hein. Mais vraiment, c'est très difficile d'anticiper ce qui va bien marcher, ce qui va mal marcher. Et dans le cas du coup d'un établissement existant, vous avez énormément de données sur ce qui marche, sur ce qui marche pas, sur ce qui a été mis en place, sur ce qui a été testé. En plus, si vous pouvez discuter avec les propriétaires, c'est du pain béni parce qu'ils peuvent vous dire ce qu'ils ont testé. Je pense aux canaux, par exemple, de communication ou même de commercialisation. Donc, c'est beaucoup plus simple pour vous de prendre des décisions et de dire, bon, voilà, on en est là. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, évidemment, vous aurez deux chemins dont on n'a pas trop parlé jusque-là, mais vous avez toujours deux chemins quand vous reprenez un établissement. C'est soit vous allez vouloir faire des gros changements, et dans ce cas-là, bah, ce sera comment on change à partir de l'existant, soit vous allez vouloir vous inscrire dans la continuité, et dans ce cas-là, c'est repartir sur ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas, mais dans tous les cas, vous avez une base. C'est un petit peu, je dirais, comme vouloir construire une maison de zéro ou redécorer une maison existante. Il y en a un qui demande un peu plus d'effort que l'autre.
Alors, les trois derniers points, ils sont assez complémentaires, effectivement. Là, c'est vraiment mon expérience qui parle. C'était le fait qu'on bénéficie de l'expérience des anciens propriétaires qui peuvent nous annoncer, alors il faut prendre un peu de recul, mais le temps de ménage, le rythme d'entretien du jardin, comment eux, ils s'organisaient. Ça, c'est quand même pas mal, même si, encore une fois, vous aurez votre propre organisation. Ça permet un petit peu de se projeter. Effectivement, s'ils vous disent, ben nous, il nous faut 4 heures pour faire tout le jardin, etc., ça vous donne quand même un référentiel et ça vous permet de vous dire, ok, ben peut-être qu'il faut que j'embauche quelqu'un pour le jardin parce que ce n'est pas du temps que je pourrais consacrer, des choses comme ça. Vous achetez en même temps les murs, mais aussi peut-être tous les équipements qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous avez tous les meubles, peut-être déjà tout le stock de linge, les équipements électroménagers, etc. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui se négocie pendant le rachat. Hein. Mais on ne va pas se le cacher que c'est quand même super, super confortable de démarrer avec un gîte clé en main. Et le dernier point, donc les trois, je trouve, sont quand même très proches, c'est le fait que vous pouvez aussi mieux anticiper les choses que vous devrez mettre en place. Je pense notamment aux travaux, parce que je pense que vous aurez envie de vous approprier les lieux, aussi beaux soient-ils. Il y aura peut-être juste une couleur de peinture que vous souhaitez modifier. Peut-être que dans une chambre, au lieu des trois lits qui sont déjà mis en place, vous préférerez mettre un lit double. Voilà, c'est des petites choses. Ou alors, pour des choses un peu plus conséquentes, les anciens propriétaires vont peut-être vous dire, bah là, nous, on avait imaginé changer le liner l'année prochaine. Dans 2 ans, on sait qu'il faudrait peut-être vider la fosse septique. Je ne sais pas, je trouve des exemples un peu bizarres. Mais l'idée, c'est vraiment de vous dire, ah ok, eux, c'était un peu leur briefing, et ça va vous permettre de dire, ben, effectivement, ils ont raison pour le liner, il faut qu'on l'anticipe, c'est quelque chose qu'on peut déjà budgétiser, on peut déjà se dire, ben, écoute, pendant notre période de fermeture annuelle à l'année prochaine, ben, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour supprimer l'échelle de la piscine et plutôt faire des marches maçonnées? Voilà, ça va vous permettre de mieux évaluer les prochaines priorités. En termes de travaux, d'achat, d'investissement. Est-ce que tu es d'accord?
Ah ouais, non, j'adore, parce que tu vois, je trouve que c'est hyper pragmatique.
Oui. En fait.
Non, mais c'est vrai que tu vois, c'est des considérations. Ça a l'air d'être un petit peu stratégique, tout ça, alors qu'en fait, tout ça est très pratico-pratique, quoi, comme domaine.
Voilà, alors, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce paragraphe au niveau des avantages à choisir le fait de reprendre un hébergement déjà existant?
Non, je pense qu'on a bien tiré sur les avantages.
Oui, je crois aussi. On va passer aux inconvénients. Effectivement, il y en a comme tout. Et peut-être que certains avantages vous ont fait penser que c'était des inconvénients selon l'angle dans lequel on le prenait. Et c'est tout à fait juste, effectivement. Les inconvénients qu'on a identifiés. Peut-être que c'est un peu trop proche de mon de mon expérience. Et c'est vrai que j'ai pas mal influencé cet épisode de podcast, forcément. Mais je pense que ça peut, dans tous les cas, servir à se projeter, à voir en quoi consiste et que ce qu'implique le fait de reprendre un gîte ou une maison d'hôte. Le premier inconvénient, Laurie, peux-tu nous le dire ?
Tout à fait. Bah du coup, effectivement, en fait, c'est exactement ce que tu dis, Laura, c'est que tout ce qu'on a dit en avantage peut potentiellement être un inconvénient, et je pense que c'est ça qu'il faut comprendre. Et typiquement, ce qu'on vous disait que c'était hyper intéressant d'échanger avec les anciens propriétaires, problème, ce que vous disent les anciens propriétaires, c'est pas forcément vrai, c'est une vision qu'ils ont des choses, c'est même pas forcément, ils essayent pas forcément de vous mentir, hein, mais c'était leur bébé qu'ils sont en train de vendre, ils sont pas forcément hyper objectifs. Donc finalement, ils peuvent vous donner une vision des choses qui n'est pas complètement vraie, ou en tout cas qui
ne correspond pas à vos standards. Ouais,
tout
c'est
à fait.
Ça, qui ne correspond pas à ce que vous voulez mettre en place, à vos standards, à vos envies.
Je pense que d'ailleurs, si on parle par exemple de déco, hein, tu vois, je peux te parler de ce point-là parce que c'est plus toi que ça concerne, mais il peut y avoir des choses qu'on vous dit. Les gens étaient super contents, les gens adoraient ceci, nos clients adoraient cela, et en fait pas tellement, enfin ils étaient pas forcément conscients de certains mécontentements. Ça c'est un exemple assez concret qu'on peut retrouver. Je pense que toi t'as des choses à dire là-dessus.
Oui, beaucoup. Après, ce que je veux pas que ce soit mal interprété, c'est pas le fait de penser qu'ils essayent de nous la faire à l'envers ou qu'ils sont malhonnêtes, c'est absolument pas ça. Hein. C'est vraiment juste considérer que, comme l'a dit Laurie, effectivement, eux, ils ont passé des années de leur vie avec ce projet. Peut-être que eux l'ont créé, en tout cas, ils ne l'ont pas repris. Et donc, effectivement, il y a un affect, il y a un chapitre de leur vie qui est en train de se tourner. Je pense qu'il faut le prendre en considération, il faut prendre un peu de recul avec tout ce qu'ils vous diront, parce que leur quotidien ne sera pas le vôtre, leurs aspirations n'étaient pas celles que vous avez, leurs standards de qualité, de niveau de ménage très,
très bon pratique.
Encore une fois, pour ramener à moi. Bon, si ça vous énerve que je ramène tout à moi, n'écoutez pas cet épisode. Il faudra que je le dise en disclaimer. Mais effectivement, là, je disais en avantage que c'est chouette d'avoir, de connaître leurs habitudes, etc. De façon très simple, moi, on m'a annoncé un certain nombre d'heures de ménage qui est, moi, maintenant, absolument dérisoire. C'était ridicule. Mais je sais aussi pourquoi, parce que c'était pas au niveau de propreté que moi, je m'impose maintenant. Donc voilà, il faut un peu prendre du recul puisque vous ne fonctionnerez pas de la même manière. Voilà.
Et puis je pense que ce que tu disais est très vrai. Je pense que n'importe qui a fait 15, 20, des fois même plus, ont la même chose. C'est pas la même, on n'a pas les mêmes visions, on n'a pas peut-être même le même engagement ou la même motivation. Ou, comme tu dis, ça peut être une question de critères. Mais je sais que la question du ménage, tu dis que ça ramène à toi, mais moi c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Je pense aussi aux gens qui reprennent des établissements où il y a une partie cuisine. Ça, c'est un gros truc. Tu visites la cuisine la première fois, ça a l'air pas mal, t'achètes. Et en fait, quand tu retournes les étagères, tout ça, il y a du gras qui n'a pas été enlevé. Mais ils le voyaient même pas, en fait, tu vois, les anciens. C'est pas de la malhonnêteté. C'est juste qu'après avoir passé 20 ans dans cette cuisine, t'oublies de faire le dessous de l'étagère parce que tu y es tout le temps. Et toi, forcément, quand t'achètes, tu regardes, tu passes en dessous et tu te dis « Ah mince, c'est un peu gras. » c'est pas méchant, quoi.
Comme tu le disais, Laurie, effectivement, si la réputation est bonne, c'est tout bénef. Mais si, à contrario, ils n'ont pas une très bonne réputation, on part un peu défavorisé, non ?
Oui. Et en plus, des fois, c'est pas forcément quelque chose dont ils avaient conscience. Enfin, par exemple, je pense aux avis clients. Si vous rachetez à quelqu'un qui a un certain âge, pour qui la e-réputation, c'est pas un truc central, des fois, il peut y avoir une jolie collection d'avis un peu négatifs dont ils n'ont pas forcément conscience. Donc là, pour le coup, c'est à vous d'aller faire un travail de pas juste écouter ce qu'on vous dit, mais d'aller voir un petit peu ce qui existe. Et des fois, ce qui existe, en fait, en termes de marketing, ça existe, certes, mais c'est juste inexploitable ou c'est mauvais. Exemple typique, le site web. On disait plutôt que ça pouvait être super intéressant de repartir d'un existant. Peut aussi y avoir le vieux site qui a été acheté à une agence qui arnaque les gens, qui vous fait payer 2000 euros par an pour un truc qui est hors d'usage, on peut même pas réserver. Évidemment, vous pouvez pas repartir avec ça, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Et donc dans ce cas-là, en fait, non seulement vous pouvez pas repartir de l'existant, mais en plus, faut le faire fermer. Et là, par contre, on rentre vraiment dans l'inconvénient pour moi marketing d'une reprise, c'est que si la base est pas saine, si la base est mal exploitée, bah vous allez devoir faire l'effort de tout fermer, ou en tout cas de tout transformer. Et quand je dis tout, c'est va falloir aller en ligne, vérifier toutes les fiches, tous les annuaires, tous les endroits où l'établissement a été répertorié. Par exemple, si la personne faisait des fautes d'orthographe, bah aller vérifier tout ce qu'elle a écrit pour le corriger. Si y avait des réseaux sociaux avec des centaines de mauvais avis, ou des fiches Google My Business, ou des fiches TripAdvisor, bah là pareil, il faut faire fermer, ou il faut demander la fermeture des avis, parce que vous changez d'établissement. Enfin, en fait, ce qui aurait pu être un avantage devient un très 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 gros boulot supplémentaire, parce qu'une fois que vous avez tout fermé, il faut tout recommencer. Donc là, pour
voilà,
le coup...
Voilà, il n'y a pas que de la création, finalement.
Ouais.
Il faut carrément... essayer de faire page blanche avant de pouvoir passer à l'étape de création. Mmh. Et tu disais récupérer les codes, faire fermer la page sur Google, des choses comme ça. En plus, voilà, sans vouloir faire peur, ça peut être une galère au-delà de la procédure, mais pour leur faire nous redonner les codes, parce qu'ils peuvent les avoir oubliés et s'en fichent. Moi, pour avoir des échanges avec Google sur justement Google My Business, etc., c'est une galère sans nom pour avoir quelqu'un et pouvoir communiquer, etc. Donc, ça peut être très compliqué aussi. Donc, c'est pas qu'on part de zéro, c'est qu'on part de moins 10.
Oui, c'est ça. Mais rien que le site web, moi, je me rappelle avoir passé 2 mois avec un client, je crois qu'on en avait parlé dans le dernier épisode, à le faire fermer. Et là encore, on avait un contact. Des fois, il n'y a même plus de contact. Genre, la personne, elle a disparu, ou elle est morte, ou elle a déménagé. Vous ne savez même pas qui c'est qui a fait ce truc-là. Quand vous demandez le mot de passe, ça envoie sur une adresse mail que personne n'a plus, ça appelle un numéro de téléphone qui était fermé. Enfin, vraiment, pour le coup, sans vouloir faire peur, parce que ça se fait, mais c'est quelque chose qui prend du temps, et donc pour le coup, vous en avez peut-être pour 2-3 mois à tout fermer, tout récupérer, tout assainir, et ensuite, vous repartez de zéro. Donc là, bah, c'est comme si vous rachetiez un établissement, donc non seulement vous avez perdu 3 mois à tout fermer, puis il faut tout refaire, le site, les réseaux sociaux, etc. Et bah du coup, sans appesantir, parce qu'on en a beaucoup parlé tout à l'heure quand on parlait de changer de positionnement, changer de stratégie, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, c'est ce que tu me disais, Laura, on part pas forcément de zéro, on rase pas forcément la maison quand on la rachète, mais ça peut arriver que vous rachetiez un établissement en vous disant « voilà, je vais changer beaucoup de choses », bah là, c'est un peu la même chose. C'est si vous rachetez en prévoyant beaucoup de changements, potentiellement, le site, ça va pas aller du tout, donc va falloir le refaire. Vous allez agriter d'un compte Instagram avec des photos peut-être un peu amateurs, vous voulez faire du luxe, ça va pas marcher. Ou alors vous voulez faire que des couples et il y a que des photos avec des enfants, pareil, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez à minima photo supprimée. Enfin, en tout cas, il y a quand même beaucoup de configurations où vous allez devoir déjà composer avec l'existant, faire un gros effort pour le récupérer ou le fermer ou le modifier, et ensuite seulement vous pourrez imposer votre patte. Et franchement, c'est pas insurmontable, mais ça prend du temps et c'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper.
Mais je pense qu'en fait, c'est le plus gros point, les inconvénients, parce que ça regroupe tout. C'est que si on veut tout changer, si on ne peut pas se servir de l'existant, c'est un vrai boulet.
Oui.
Parce que on n'en est pas, comme on vient de le dire, à faire de la création. Il faut d'abord tout raser pour pouvoir replanter. Donc, c'est vraiment encore plus difficile que de partir à zéro. Et ça rassemble tout, donc comme on dit, s'il y a une mauvaise réputation, s'il y a des mauvais avis, si la déco est vraiment catastrophique, si la cible n'est pas du tout pertinente, s'ils ne sont pas très à même de nous donner tous les codes qu'il faut pour retravailler tout, si le site il est complètement dépassé, voilà, tout ça. Il faut vraiment nettoyer la place, nettoyer l'image.
Oui, c'est ça, hein.
Et en fait, ça devient encore plus fastidieux qu'une création. Je pense que
ouais, double travail,
voilà,
en fait.
C'est
hein.
Ça. Donc le principal inconvénient, c'est est-ce que ça me correspond ou pas. Si ça me correspond, dans le sens où est-ce que c'est vraiment la stratégie que je veux faire poursuivre, etc. Dans quel cas, c'est une montagne à gravir, je crois.
En fait, il faut vraiment faire le bilan de ce que vous pouvez récupérer. Mais limite, il faut faire une liste, en fait, pour
voilà,
se rendre
ça,
compte
que j'allais dire.
De si on avait, on a plus de plus ou plus de moins. Si vous avez 30 pages de moins et une demi-page de plus, il faut peut-être se dire, bon, il y a du boulot. Après, c'est pas insurmontable, hein. Il y a des endroits où ça peut vraiment valoir le coup. Moi, j'ai accompagné des gens qui rachetaient dans un petit village où effectivement, il y avait tous ces inconvénients, mais l'emplacement faisait que vraiment, ça valait le coup parce que c'était imprenable. Donc, ils avaient conscience qu'il y aurait ça, donc ils l'ont anticipé en termes de temps. Et aujourd'hui, ils fonctionnent extrêmement bien, tout se passe très bien. Mais par contre, ouais, on a mis 4-5 mois à faire juste, tu vois, le travail de nettoyage de tout ça, de dire ça va changer. Parce qu'après, il faut aussi voir qu'une fois que vous avez fait le nettoyage, comme vous reprenez un truc existant, il faut absolument faire comprendre que ça a changé. Parce que les gens, ça fait 20 ans qu'ils viennent et que c'était sale, par exemple, va falloir leur faire comprendre que maintenant, ce sera propre. Donc non seulement, il faut tout repartir de zéro, mais en plus, il y a un effort de communication pour faire comprendre que ça a changé. Donc, non seulement double travail, mais j'ai presque envie de dire triple, parce qu'il faut aussi faire comprendre que ça change.
Oui, moi, ça me fait penser à mon cas où on a augmenté les tarifs, pas la première année, mais c'était l'année dernière, justement, donc au bout de 3 ans. Et certains clients qui étaient habitués n'ont pas compris, mais ils n'étaient pas revenus entre-temps, hein, c'est pour ça. Et du coup, tu te dis, ah oui, mais attendez, il faut que je vous explique, en fait. Ce n'est plus comme avant. Donc, il y a aussi cette communication avec les clients que tu as peut-être fidélisés, voilà, tout ce qu'on a déjà dit. Et ça fait parfaitement le lien avec la dernière partie de cet épisode sur nos conseils, comment se préparer pour cette reprise. Donc, le premier point, effectivement, faites la liste, faites la balance. Est-ce qu'il y a plus de choses à garder ou plus de choses à enlever? Ben peut-être que ça ne vaut pas le coup de racheter ce bien-là, aussi beau soit-il, même si c'est un coup de cœur, etc. Parce que le travail à venir est trop important. Et l'investissement, non pas financier, mais l'investissement de temps, d'efforts, va être trop important pour que ça vaille le coup.
Ouais, complètement. En tout cas, il faut l'anticiper. Il faut vous dire, est-ce que j'ai le temps financièrement, etc. Typiquement financièrement, est-ce que j'ai 2-3 mois devant moi pour gérer tout ça?
Ouais, est-ce que je peux me le permettre?
Ou est-ce que c'est
et
pas
est-ce
possible?
Que j'ai les épaules aussi pour est-ce que j'ai les épaules aussi pour me lancer dans ce challenge? Ça peut être un super challenge, hein. Ça peut être hyper excitant de se dire cette bicoque, je vais t'en faire un manoir. Et ben ouais, trop bien. Et effectivement, on recevait, je ne sais pas quel type de clientèle, mais là, ça va être le top de la qualité. Et ça peut être génial. Et c'est juste qu'il faut que ce soit un choix et non pas subi.
Oui, c'est ça. Voilà. Si vous le découvrez le jour où vous arrivez et que vous vous dites « Bon, bah, on démarre et que là, c'est la catastrophe, vous tombez de haut, vous ne vous rendiez pas compte », là, généralement, c'est assez problématique.
Donc, un conseil, c'est faire l'état des lieux de l'existant. Prenez du recul par rapport à ce que vous disent les anciens propriétaires et faites un petit peu votre enquête. Allez voir par vous-même en vous positionnant comme si vous étiez un client. Par quel canot vous le retrouvez? Est-ce qu'on le retrouve facilement sur le net? Est-ce qu'il y a une bonne visibilité? Est-ce que les avis sont positifs? Est-ce que le compte Instagram explose et permet de faire des réservations en direct ou au contraire, ben, il n'y en avait pas? Est-ce que le nom est pertinent? Est-ce que quand on tape le nom dans Google, ben, on arrive à la 6e page ou est-ce qu'on arrive de suite? Est-ce que le bâtiment est en bon état? Est-ce qu'il faut prévoir de gros travaux? Est-ce que ça permettra d'ouvrir tout de suite? Est-ce qu'il faut prévoir une fermeture de plusieurs mois parce que les travaux sont trop importants? Est-ce que ça rentre dans le prix? Voilà, il y a tout ça à analyser.
Oui, finalement, en fait, c'est juste de bien se dire que il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, si vous le faites d'un point de vue stratégique et vous voulez en vivre, il ne faut pas se dire « je verrai après, si j'aime bien, j'achète ». Enfin, j'exagère un petit peu parce que vous faites quand même des business plans, etc. Mais des fois, vraiment, il y a des gens qui découvrent des gros, gros, gros travaux, j'ai envie de dire, au sens marketing ou au sens vrai travaux, ils ont déjà acheté. Essayez de ne pas tomber là-dedans et d'avoir fait vraiment l'enquête avant. Comme ça, voilà, si vous le faites, vous savez dans quoi vous mettez les pieds. Et c'est parce que vous avez un vrai projet qui tient la route et pas parce que vous êtes au pied du mur et vous n'avez plus le choix.
Vous pouvez même aller jusqu'à appeler d'anciens locataires. Si vous avez un peu de visibilité sur leur fichier client, s'ils vous le transmettent, si vous pouvez même pas remonter à 3 ans en arrière, mais peut-être les derniers clients qui sont venus dans le gîte ou la chambre d'hôte, vous pouvez peut-être vous permettre de les appeler en vous présentant, en expliquant le contexte. Ils ont envie ou pas de vous répondre, mais vous pouvez leur dire, voilà, est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce logement, qu'est-ce qu'il a pu vous déplaire, etc. Et puis, ça vous permet d'avoir un retour, là, pour le coup, qui est objectif.
Ouais. Ou même si l'établissement est encore en activité, allez-y en tant que client, des fois,
tout à fait.
C'est vraiment un bon truc d'aller voir... Bah voilà, je pense aux chambres d'hôtes, par exemple, tester la table d'hôtes, ça permet de voir d'où on partait, à quoi étaient habitués les gens. Le ménage dans les chambres, il n'y a jamais d'aussi bon moyen de le voir qu'en y allant. La qualité du service, enfin voilà, tout, si vous le testez, c'est aussi un bon moyen de se rendre compte.
Et vous pouvez négocier aussi. Moi, je sais qu'on a vu avec les propriétaires pour avoir les clés le temps d'un week-end. Donc, c'était pas loué, puis c'était en période hivernale, etc. Mais nous, on a pu, je peux vous dire qu'on a regardé dans tous les coins. On l'avait pendant un week-end sans les avoir sur le dos, comme on peut des fois avoir quand on fait une visite et que les propriétaires vous lâchent pas. Là, c'était super. On a pu, en tout cas, faire notre propre analyse, voir, ok, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est top, ça c'est pas génial. Ok, ça nécessite quoi? Un remplacement, un nouvel achat, etc., etc. Donc, c'est peut-être quelque chose qu'on peut demander. C'est aussi très important d'aller interroger les commerçants, les partenaires dont on parlait tout à l'heure, les voisins. Pour être en plein dedans, mais je ne veux pas développer davantage de sujets, c'est très important que vous alliez un petit peu sonder. Parce qu'encore une fois, peut-être que les propriétaires vous disent « c'est génial, on s'entend avec tout le monde, tout se passe très bien, les commerçants nous adorent, etc. » Et puis vous allez vous rendre compte que finalement, ça c'est leur discours, mais que c'est peut-être pas tout à fait la vérité. Donc c'est important que vous alliez juger par vous-même en sondant un petit peu, comme on disait, le tissu local.
Ouais, tout à fait. En fait, finalement, moi je pense que le bilan, c'est de se dire qu'il faut laisser de côté aucun aspect. Le web, le local, le bâtiment lui-même, les clients. Vous prenez tous les aspects que vous aurez à gérer dans votre future vie de propriétaire et de chef d'entreprise. Et vous allez vérifier tout. Faut pas se dire le site c'est pas grave, ou les avis clients c'est pas grave, ou les réseaux sociaux c'est pas grave, ou le fait qu'il y ait un conflit avec le boulanger c'est pas grave. Vaut mieux aller tout vérifier. On part beaucoup mieux préparé que si on le fait pas.
Exactement. Je pense que ça peut conclure à peu près cette partie. Parce que vraiment, je pense m'être un peu répété, l'idée, encore une fois, et une dernière fois, je vous le promets, c'est vraiment d'essayer de prendre du recul et de faire votre propre enquête. Nous arrivons à la conclusion de cet échange et encore merci Laurie pour ton temps et pour cette super analyse. J'espère que ça aidera les auditeurs à y voir un peu plus clair et en tout cas, j'espère qu'on n'est pas allé trop... qu'on ne vous a pas fait peur parce que ce n'était pas l'idée, mais que ça vous permet de... peut-être anticiper des choses que vous auriez pas, auxquelles vous n'auriez pas pensé. Pour conclure, j'ai quelques dernières questions. La première, c'est quelles sont tes vacances idéales?
J'ai une réponse pré-Covid, où c'était l'Asie, mais maintenant ça ne marche plus, on ne peut plus y aller. Donc je dirais la nature, des grandes balades dans la nature. En ce moment, c'est mes vacances idéales.
À quel détail es-tu attentif quand tu séjournes dans un gîte, dans une chambre d'hôte ou peut-être même dans un hôtel?
Moi, j'ai la déformation marketing. Je suis toujours hyper attentive à la transparence, à vérifier que tout est bien expliqué, que tout est clair, qu'on comprend bien l'identité. Ça, c'est la déformation marketing.
Et ma toute dernière question, la question signature. Dans quel établissement tu aimerais aller séjourner le temps d'un week-end?
En ce moment, ce serait un établissement dans le sud avec une piscine où tu vois, il fait pile assez chaud pour pouvoir tester la piscine même si elle n'est pas chauffée. C'est pas faire un petit bain un petit peu frais là. J'aimerais bien ça.
Merci beaucoup Laurie, c'était vraiment chouette de faire cet épisode avec toi. C'est toujours un plaisir de toute façon d'échanger avec toi. On peut te retrouver sur la plateforme des Clés du Gîte. On peut aussi te retrouver sur Instagram ou sur ton site internet. Toutes les coordonnées seront dans les notes de l'épisode. On peut te contacter aussi juste pour un peu plus discuter de son projet et savoir si ça peut rentrer dans une de tes offres de coaching. Et je suis sûre que tu peux aussi apporter quelques réponses si certains ont des questions un peu plus précises par rapport à cet épisode, par exemple.
Tout à fait.
Génial. Je pense que c'est pas le dernier épisode, de toute façon tu es l'experte marketing sur la plateforme des clés du site, donc nous serons amenés à nous retrouver de nouveau sur le podcast pour d'autres épisodes. Un grand merci et à très bientôt.
Merci Laura, à bientôt.
Psst, faut pas partir comme ça. Avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou à m'identifier sur Instagram. Promis, maintenant j'arrête de parler.